Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sap, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon, c'est parti! Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à entrer non pas dans un dressing, mais dans les coulisses d'un magazine. Il y a un an, Charlotte Roudeau a eu l'audace de créer un magazine papier. Oui, papier. Son titre, Beau Magazine. Un an et quatre numéros plus tard, ce titre s'est imposé comme le magazine des nouveaux optimistes, qui réunit de la culture, la mode, les voyages, l'art de vivre. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Alors, tu es journaliste et autrice. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ?
Ah ben, on en parlait tout à l'heure. On a le même parcours puisque j'ai fait un cursus en fait de droit à Assas, un débat de propriété littéraire et artistique. Donc avec
et industriel aussi.
Et industriel, exactement. Je pensais à cette époque que les idées passaient par là, en fait, par le droit. En tout cas, c'est comme ça qu'on parvenait à les imposer. Et la vie m'a réservé une toute autre surprise. Au cours d'un stage, je suis rentrée chez Nova et j'ai rencontré Jean-François Bizot. Et j'ai compris que les idées passaient plus par la plume et par la presse. Et puis, je ne suis plus jamais repartie de la presse, en fait. Voilà.
Donc, tu es passée par Nova ?
Par Nova. Après, j'ai toujours eu un petit côté pirate ou rebelle, je ne sais pas. Après Nova, on s'apprêtait à découvrir une nouvelle ère, en fait, pour le journalisme, qui était cette presse gratuite qui arrivait, qu'on trouvait très underground à l'époque. Donc, j'ai intégré Anou Paris, qui venait de se lancer, en fait. Et ensuite, j'ai un petit peu bifurqué. J'ai fait plusieurs médias. Je me suis essayée aussi. J'ai fait quelques interventions pour la télé, pour Arte, notamment dans une émission qui s'appelait Chic, qui décryptait des tendances. Et puis, pour la presse féminine, DS Magazine, et puis Grazia, qui a été une grande partie de ma vie.
Tu t'occupais du lifestyle chez Grazia.
Exactement, ouais.
Au moment où je lançais Chiffon. Et ah, d'ailleurs, c'est Grazia 2010. Qui m'a aidée à bien décoller grâce à Joseph Ghosn.
De points communs.
Oui, c'est vrai. On est, alors là, nous, et tu t'appelles Charlotte en plus.
Voilà.
Quel a été le déclic pour créer un magazine papier ? Parce que c'est terriblement audacieux. Moi, quand j'ai vu ce magazine, je me suis dit, c'est fou, un nouveau magazine à cette époque, alors que le print se casse la gueule.
Ça s'est vraiment présenté comme une envie, mais même un besoin, en fait. C'est-à-dire que... Au Gradia, on était quand même très passionnés, donc tu connais la rédaction, on faisait des choses avec le cœur et authenticité. Et effectivement, on avait quand même une problématique de se dire qu'on ne trouvait plus exactement ce qui, en kiosque, pouvait nous parler ou nous accompagner en fait, dans la vie. Et donc, on a beaucoup réfléchi sur les valeurs en fait, qui devaient sans doute irriguer la manière de choisir un sujet et les personnes qu'on avait à interviewer ou à raconter. Et c'est vrai que l'idée d'un magazine s'est très vite imposée. Et l'idée du papier aussi, parce que le monde va vite et qu'on avait envie de le ralentir un peu, et que le papier a cette chose de rassasiante, c'est qu'il y a un début et une fin. Et quand on l'a lu, on se sent assez satisfait et enrichi, en fait, de ce qu'on y a découvert.
D'ailleurs, Beau n'est pas un magazine, c'est plus qu'un magazine. C'est une véritable revue que tu peux garder parce qu'elle témoigne d'une époque.
Oui.
C'est ça la force de ce magazine. Alors... Pourquoi ? Alors après, on va revenir sur Beau, mais j'aimerais qu'on parle un peu de la presse. On parlait de Grazia, donc tu as quitté Grazia tout comme moi parce que ça a été racheté par un groupe de presse qui a des pratiques, on va dire, publicitaires.
Voilà, par un groupe qui, du coup, a une vraiment toute autre vision, en fait, de ce qu'est...
Un journalisme.
Voilà.
Un journaliste, pardon.
Voilà. Ou de la communication. Donc nous, on est partis parce que effectivement, on se retrouvait plus dans la ligne éditoriale. C'est difficile parce qu'aujourd'hui, effectivement, on en parlait. Il y a les réseaux, il y a un manque de valorisation en fait de notre métier. Or, je crois que dans cette période qui est très bavarde, où personne ne s'écoute, la parole, en fait, de quelqu'un qui arrive à faire ce boulot de recherche et de prescription permet de gagner du temps. Mmh. On est dans une époque où tout le monde en manque. Donc, mmh. en fait, je pense que ça vaut peut-être le coup, à un moment donné, de retrouver et de reconnaître, en fait, la valeur qu'a un journaliste, qui est celle de défricher dans l'époque ce qui peut faire sens, ce qui peut guider, ce qui peut la nourrir, en fait.
Qu'est-ce que tu répondrais à une femme qui te dirait ben moi, j'achète plus la presse magazine, parce que même la presse féminine, parce que je ne m'y retrouve plus?
Je la comprends. En fait, je lui dirais que je la comprends, parce que moi, j'adorais, j'ai toujours été élevée avec beaucoup de presse, et j'ai toujours considéré la presse comme un compagnon, parce qu'il a ce pied dans la réalité. Et ça fait longtemps que j'ai pas ouvert un magazine, en fait, qui a cette dimension, en fait, affective, qui crée ce lien. Et nous, c'est pour ça qu'on essaie vraiment d'être toujours, les conférences de rédaction sont extrêmement animées, parce qu'on se dit, alors qu'est-ce que j'ai envie de lire, et est-ce que cette personne, elle fait suffisamment sens pour qu'on en parle, et pourquoi est-ce qu'on lui consacrerait 4 pages ou 6 pages? Tu vois, on est vraiment toujours dans cette réflexion et ce souci aussi de se dire que notre lectrice ou notre lecteur, il n'a pas de temps à perdre. Donc, on doit être au plus précis pour lui, au plus efficace, et lui présenter ce qui nous semble être la meilleure personne ou le meilleur reportage du moment.
Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que c'est une personne qui fait sens?
Alors, nous, une personne qui fait sens, c'est une personne qu'on aime. En fait, on a appelé ce magazine Beau parce que...
T'as anticipé ma question.
Voilà.
Pourquoi Beau?
Parce que c'est ce qu'on aime et ce qui nous engage, en fait. Mmh. Et aujourd'hui, je trouve qu'il faut sans doute avancer avec cette dimension de se dire que ce qui nous plaît, c'est ce qui nous touche dans notre chair profondément, et pas ce qui fait un buzz terrible sur les réseaux ou en termes de likes.
Un buzz qui sera très vite oublié, en plus.
Voilà, éphémère.
Donc, c'est ça, être une nouvelle optimiste?
Oui, c'est de croire, en fait, en ce qu'on ressent. C'est d'apprécier aussi la capacité à aimer, en fait, des gens, un objet, revenir, en fait, à ce sens-là et à soi. C'est vrai que, finalement, quand on parle de beau en sous-texte, il y a toutes les contraintes de l'époque, parce que ce qui est beau, c'est ce qu'on aime. A priori, ce n'est pas quantitatif, c'est plutôt qualitatif. Cette chose qui est belle, elle peut être commerciale ou ne pas avoir de valeur. Une caresse, une poésie peut être belle, en fait, et donc, à ce moment-là, ce n'est pas quelque chose qu'on achète. C'est quelque chose auquel on tient, donc on a envie de le réparer. On peut le voir évoluer par les stigmates du temps. Mmh. Et du coup, on s'est dit, c'est en prenant ce prisme ou ce fil rouge, eh bien, on va pouvoir parler de l'époque et de répondre, en fait, aux exigences de l'époque avec cette dimension positive, en fait.
C'est marrant parce que j'ai interviewé dans Chiffon, il n'y a pas longtemps, une directrice d'une agence de com qui m'a dit que le luxe, c'est ce qui se répare. C'est la même chose.
Oui. Oui, et c'est... Et je crois, il y a une autre phrase que j'aime bien, le luxe, c'est ce qu'on aime tous les jours, en fait. C'est ce dont on ne se lasse pas aussi. Et le beau, c'est ça, en fait. Donc, pour nous, le beau est quelque chose qui est à spectre large et qui est peut-être quelque chose auquel on ne croit plus ou qu'on attribue à peut-être une sorte de superficialité. Or, je pense que c'est l'essentiel pour traverser des périodes compliquées, en fait.
Bah, c'est comme la mode. Disons que c'est superficiel. Or, ce que je dis à chaque fois, c'est qu'on ne peut pas sortir nu dans la rue. Donc, on a besoin de s'habiller. Ouais. Et forcément, la mode a moult sens.
Oui,
c'est ça comme ça. D'ailleurs, on parlait de beau, du titre beau. Charles Pépin, qui est dans le dernier numéro, dit que c'est très difficile de définir le beau.
Oui, et il raconte aussi que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément essentiel. Ce qui est important, sans doute, c'est d'être en capacité d'apprécier et de recevoir les instants de beau quand ils se présentent à nous. Et je crois qu'il donne l'exemple d'une chanson, en fait, qu'il entend à la radio, qui lui crée un moment de beauté. Il dit, en fait, il faut être en capacité de tout arrêter pour l'apprécier. Et il a raison, en fait.
De s'arrêter. C'est un peu de la slow life aussi, quelque part.
Oui, et puis de remettre aussi les valeurs peut-être à leur place, c'est-à-dire que ce qui compte aussi, c'est ce qui nous crée à un moment donné et nous enrichit. Donc, c'est peut-être à ça qu'il faut consacrer un petit peu de temps et sortir en fait de notre frénésie, de nos flux aussi, qui sont aujourd'hui très contraignants et très chronophages en fait.
Et de surconsommation, dans tous les sens du terme.
Oui.
Surconsommation de l'image, surconsommation de fringues, de tout. On va en reparler. Alors, Beau parle de lifestyle, déco, voyage, culture. Alors, la partie mode
m'a interpellée. Pourquoi ça s'appelle pas mode, ça s'appelle vestiaire avec un S.
Oui, parce que justement, comme tu disais, moi j'aime bien l'idée que la mode, ce soit plus un compagnon qu'une classification. Et du coup, le vestiaire, moi typiquement, c'est quand je vais devant mon dressing, souvent je cherche une tenue, c'est un peu un abécédaire. C'est-à-dire que selon l'état d'esprit dans lequel je suis, elle va m'accompagner ou raconter quelque chose de mon état ou de... Et encore plus peut-être aujourd'hui, où selon les créateurs en fait, que tu choisis, bah, en même temps, tu racontes quelque chose de tes valeurs et tu cautionnes aussi finalement tout un écosystème ou une mode qui est pensée différemment. Et c'est ça qu'on avait envie de souligner.
Justement, dans le numéro 4, c'est Margaret Orwell qui est mise à l'honneur.
Oui. Bon,
inutile de dire que j'adore cette créatrice.
Nous avons ce point commun.
Encore. Alors, tu as appelé ça, alors j'ai vu ça passer, la mode au-delà de la mode.
Oui.
Pourquoi Margaret, alors ?
En fait, je trouve qu'elle a été assez pionnière à beaucoup d'égards, parce qu'en fait, elle a su créer un vestiaire intemporel à l'époque où ce n'était pas forcément la nécessité. On était plutôt dans un souci de marketing un peu plus dopé. Et aussi parce que la question du genre, en fait, elle s'en est affranchie tout de suite. Mmh. Aujourd'hui, le genre n'est plus une question. Enfin, on y arrive petit à petit. Et donc, elle avait vraiment cette mixité dès le début et dans l'ADN de sa marque. Et autre point au-delà de la mode, c'est parce qu'elle a toujours créé en fonction de qui elle était, sans jamais se soucier, en fait, finalement, des tendances, de ce qui se passait ailleurs. Et donc, je trouve que c'est quelque chose qui va au-delà de la simple tendance. C'est quelque chose qui est vraiment dans le récit authentique et personnel, cette écriture comme ça qu'elle porte sur les textiles, voilà, qui en plus, moi, me parle depuis le début. Donc, j'étais très contente qu'elle donne cette interview.
C'est quoi ta relation à la mode ? Non, tu parlais tout à l'heure de ton dressing le matin.
Ouais, moi je mets beaucoup d'affect dans les choses. Je trouve que les objets, ils sont pas là pour rien et ils nous accompagnent. Et les vêtements, ils nous accompagnent d'autant plus qu'on les porte. Et donc, on a un rapport charnel en fait avec eux. Donc, moi, il y a des pièces, quand je me sens mal dedans, je les mets plus en fait. Je choisis les pièces plutôt pour ce qu'elles me permettent, l'aisance qu'elles m'apportent en fait. Donc, il y a quelque chose d'assez intime qui se noue à elles.
Qui rêverais-tu qui aimerais-tu mettre à l'honneur ou rêverais-tu de mettre à l'honneur comme créateur d'Embo? Est-ce qu'une Phoebe Philo, par exemple, ça te parle ou alors c'est un énième buzz
Ouais,
le retour de Phoebe Philo qui est annoncé là.
Oui, ouais, qui se fait pas mais qu'on attend, c'est vrai.
Est-ce que tu surveilles ça? Tu suis ça de près pour
Je
en parler d'Embo?
Alors, on ne veut pas être trop dans l'actualité. Il y a toujours cette idée de... Nous, c'est une histoire de rencontre, en fait. Donc, Margaret Orwell, ça faisait évidence. Et en fait, dans l'idée, je crois qu'on n'a pas vraiment de nom. Il y a plein de créateurs, même hein. Jonathan Anderson, je trouve qu'il fait une mode qui est à la fois créative et sensée. Donc, il a tout compris, en fait, à l'époque. Et je trouve qu'au-delà du fait que ce soit beau, ça fait sens, en fait.
C'est marrant parce que ça fait... Je crois que tu as dû me citer 10 fois le mot « sens ».
Oui.
Tu cherches. Donc, beau,
oui.
C'est le magazine qui donne du sens à tout.
Oui, oui. Mais parce que je crois que ça devrait être dans toutes les décisions qu'on prend, en fait. Aujourd'hui, ce qu'on achète a un vrai impact sur la société dans laquelle on vit. Et on peut changer les choses, en fait. Donc, c'est intéressant de... pas consommer de manière irréfléchie, mais de consommer de nouveau en fonction de ce dont on a besoin et ce qui nous correspond.
Toi qui étais journaliste de tendance sur Arte, est-ce que tu suis les tendances ?
Oui, je les aime bien parce que je trouve qu'elles racontent, elles sont toujours un vrai indice en fait sur l'époque.
Bien sûr, elles témoignent d'une société.
Exactement. Après, je pense que on a le devoir, le rôle ou la mission, je sais pas, de nourrir aussi ces tendances, c'est-à-dire de pas non plus, et c'est ça des fois sur les réseaux, c'est-à-dire que les buzz, je trouve, nous enferment en fait. Il faut ouvrir des portes. Nous, on ouvre des possibles, enfin on essaie, on montre de nouveaux horizons et je crois que c'est le job d'un journaliste, d'un créateur, d'aller au-delà de ce qui se passe, de pas être dans la facilité de ce qui plaît, mais d'être dans l'ouverture de ce qui va arriver ou de ce qui pourrait intéresser demain.
J'allais dire triste, non, triste c'est peut-être un peu fort, mais c'est vrai qu'Instagram a quand même encouragé une espèce d'uniformisation de la mode.
Oui.
Tout le monde s'habille pareil. Alors déjà, il y a aussi dans les photos, tout le monde pose pareil, etc. Mais on s'aperçoit que les gens finalement n'osent pas s'affranchir et aller au-delà et chercher. Moi, la première remarque, j'ai tendance à regarder là, la Fashion Week en Italie, à Milan. Qu'est-ce que je fais? Ben, je regarde les défilés Gucci, Prada, alors que je devrais regarder d'autres créateurs.
Oui. Après, Instagram, en fait, n'est que l'outil, en fait, le médium. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il offre aussi à chacun la possibilité de prendre la parole. Et je pense que c'est à nous à parvenir à nous affranchir des likes et à aussi parvenir à s'affranchir des posts qu'on nous pousse, en fait, pour aller chercher aussi ce qui nous plaît. C'est ça, ce retour, en fait, tu vois, quand on est dans le sens où de dire qu'on achète quelque chose qui nous parle parce qu'on la trouve belle, c'est revenir à soi, en fait.
C'est pas pour essayer de ressembler à quelqu'un d'autre.
Ouais.
C'est comme Beau. D'ailleurs, Beau ne ressemble à aucun autre magazine.
On essaie.
Juste pour la mode, je voulais savoir, quel est ton avis sur son évolution, là, depuis quelques années?
Moi, je me dis que si la mode s'empare vraiment des sujets de l'écologie, ça amènera à une grande avancée. Parce que les gens... La mode, elle est aidante, en fait. C'est vraiment une manière d'être ensemble, une manière affinitaire. C'est le vecteur essentiel pour le vivre ensemble. Donc, à partir du moment où elle donne un petit peu plus de valeur ou d'intérêt, en fait, à la manière dont elle produit, à la manière dont elle crée aussi ses collections et le nombre, alors je pense qu'elle a la capacité de faire changer... de manière très importante et significative l'époque.
Déjà, il faudrait peut-être changer aussi, réduire le nombre de défilés, peut-être, de Fashion Week.
Ça passerait par tout ça, en fait. Et surtout que, je pense que gérer la décroissance, ce n'est pas une punition. Nous, on n'a pas l'objectif de tirer à 100 000 exemplaires. On a un objectif de trouver notre communauté et d'essayer d'inspirer au maximum des gens qui se sentent concernés. Et sinon, il y a quand même... énormément de moyens aujourd'hui pour un média aussi de communiquer. Donc, c'est de travailler son écosystème pour être présent sur les réseaux. Enfin, voilà, il n'y a pas que le papier. Et c'est important de se dire qu'on ne va pas faire pour pilonner après du papier. Il faut être au plus juste de ce qu'on crée.
Tu tires à combien d'exemplaires?
Là, on tire à 25 000 exemplaires.
Ce qui est quand même très bien.
Oui, alors, c'est parce qu'on voulait aussi être... pour le coup, c'est un magazine, donc on est présent dans tous les kiosques et les librairies et on voulait être présent partout, en fait. Donc, il faut quand même un minimum de tirage. Bah, pour qu'en fait, on nous trouve en fait, dans des petites villes de province et qu'on ne soit pas que parisien.
Ça, c'est pour sortir, parce que tu ne veux pas non plus... Tu veux sortir du milieu de l'entre-soi.
Exactement, ouais.
Où puisses-tu toutes tes inspirations?
Alors, comme c'est la chance, c'est qu'on est une équipe. Chacun vient avec ses idées, ses rencontres. En plus, la rédaction, elle est composée avec beaucoup de correspondants. Donc, c'est très intéressant de voir les différences et les profils avec lesquels les journalistes, en fait, correspondants sont nourris. Et en même temps, on se rend compte que la mondialisation a quelque chose de bien. C'est que... on a quand même des valeurs communes, un socle commun. Et de le voir décliné dans d'autres pays, moi, je trouve que c'est une manière de s'approprier les sujets différents. Donc, ça offre souvent des solutions plurielles, en fait. Donc, je trouve que c'est assez bien de parler, par exemple, d'un créateur de mode qui fait avec conscience et authenticité son métier. Ben, ça peut être très différent entre la manière de l'aborder à Madrid qu'à Lisbonne. Et peut-être que pour une de nos lectrices, eh ben, ce sera la manière lisboète qui lui parlera le plus.
Ça, c'est hyper intéressant. Et est-ce que Beau sera traduit un jour en anglais?
Oui, c'est l'idée. Ce qu'on veut, c'est bien identifier le réseau de distribution à l'international pour ne pas envoyer du papier pour du papier. Donc, quand on aura ce réseau, parce qu'on y travaille quand même, on ira.
Parce qu'il y a, par exemple, il y a Confect... un magazine que j'apprécie beaucoup. Lui, il est tout en anglais. Et c'est vrai que j'avais entendu dire qu'il allait aussi avoir une partie en français.
Alors moi, j'aime bien les magazines qui choisissent leur camp. C'est-à-dire que si on devait sortir en anglais, je trouve que si on doit avoir une version anglaise, il faut qu'elle soit anglaise. Parce que sinon, c'est toujours très frustrant d'avoir les deux langues. Ça encombre une page.
Non, c'est vrai, c'est pas beau. Quel avenir pour Beau, alors, à part l'internationalisation, la traduction?
Bah, déjà qu'on soit là, c'est super, parce que c'était un vrai pari et que Beau, c'est un contre-courant, c'est évident.
Et alors, je tiens à le dire, c'est un trimestriel aussi.
Oui.
Oui, c'est un trimestriel. Bah, la périodicité, je trouve qu'elle est, elle est confortable parce que aujourd'hui, on manque de temps. On manque de temps pour tout, en fait. Donc nous, on avait envie que les gens, ils puissent nous avoir, qu'ils se posent, qu'ils nous reprennent, qu'ils nous collectionnent, effectivement. C'est pour ça qu'on l'a vraiment pensé pour qu'ils puissent trouver sa place dans une bibliothèque et que les numéros se suivent. Et puis, dans le magazine, on a une partie qui est guide, en fait, qui répertorie, donc, dans tous les domaines, des adresses et des créateurs. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il faut arrêter de se projeter dans le futur. Il faut surtout le rendre présent. Mmh. Voilà, c'est ce qu'on fait.
Ça, c'est ça qui me plaît dans ce magazine, justement. Quelle est ta définition de l'élégance? Est-ce que Beau est un magazine élégant, déjà?
L'élégance, en ce sens que c'est quelque chose qui paraît simple... J'aime la simplicité qu'il y a dans le mot de l'élégance, parce que pour moi, l'élégance, elle n'est pas sophistiquée. Elle est simple et juste. Donc, peut-être que si on lui met ces deux mots derrière, j'aurais le plaisir de dire qu'il est élégant.
Tu peux le dire. Et la dernière question, c'est plus pour... l'autre fois, j'ai interviewé aussi une jeune femme qui me disait qu'elle aurait rêvé de créer un magazine papier, mais que c'est beaucoup trop compliqué. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer?
Je pense que quand on ressent fortement quelque chose, je ne sais même pas si véritablement on en fait le choix. Je pense qu'on est complètement esclave d'une idée quand elle se présente avec un degré de nécessité très important. Donc, faut y aller. Faut y aller parce que de toute façon, il sera toujours temps de découvrir la somme d'emmerde qui va avec l'entrepreneuriat. Et que c'est comme ça qu'on fait avancer ou en tout cas qu'on... on n'était pas sûr de le gagner, ce pari. Là, ça fait un an, 4 numéros, mais on ne s'est pas lancé en se disant « ça va être tout cuit ». L'univers de la presse est très compliqué. Les gens ne voient plus ni l'intérêt de payer, ni l'intérêt de passer en kiosque. Donc, c'était pas simple.
Et puis le papier coûte cher aussi. Il y a toute cette partie-là que les gens ignorent.
Bien sûr. Et qu'en plus, nous, on fait un papier qui est co-responsable. Enfin, donc, on est allé en cohérence, en fait, avec ce qu'on raconte dans nos pages. Donc, ça fait que le prix du magazine en trimestriel, il est à 16 euros. Parce que c'est ce que ça coûte, en fait, en fabrication, d'avoir une chaîne vertueuse. Mais en même temps, il fallait le faire parce que je pense que si on n'ouvre pas, si on ne croit pas nous-mêmes à des possibles, on ne peut pas parler ou espérer en fait que l'époque va pouvoir se réinventer, faire autrement, se nourrir différemment. Enfin, voilà, je ferais autre chose. J'aurais fait autre chose sinon.
Ce qui est très appréciable, c'est qu'il y a peu de pubs. Mais en même temps, la pub, on en a besoin. Ça, je le dis, on en a besoin dans la presse. Oui. La pub fait vivre un magazine. Mais là, je dirais que c'est une publicité qui est responsable.
Oui, en tout cas, chacun a sa place. C'est vrai que souvent, on associe presse indépendante et absence de publicité. Je ne comprends pas bien le débat parce que je pense que la presse a toujours eu de la publicité.
Mais on en a besoin.
Exactement.
C'est ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme.
Ça fait partie du business model. Exactement.
Ça fait vivre.
Après, ce qui est compliqué, c'est effectivement des magazines où il y a beaucoup de publicité et puis très peu de lectorat derrière. Donc, c'est ce rapport d'équilibre après qui pose problème. Nous, on a fait le choix. On a à peu près une quinzaine de pages de publicité qui sont ouvertes et on est très content que nos partenaires, en fait, soient là parce qu'ils nous soutiennent et qu'ils nous permettent de...
Tu as des très beaux partenaires.
Hein. Oui, et qui s'inscrivent dans la durée. Nous, ils sont souvent là sur 3-4 numéros. Ça nous permet sereinement, en fait, de faire nos reportages parce qu'on produit tout. On va aller chercher loin, parfois, les sujets ou les profils. Donc, ils nous amènent cette force, en fait, de tranquillité.
Alors, parlons du numéro 4 pour ces 1 an.
Oui.
Donc, Charles Pépin... Joaquin Phoenix, Louise Bourgoin, Les Trains de Nuit, Le Bois, La Nouvelle Valeur Refuge, Londres, des traders artisans, Menton. Qu'est-ce que tu nous réserves pour le cinquième? Un petit scoop?
Alors, on y travaille. On est vraiment là sur la fabrication. On va avoir plein de belles histoires. J'en ai pas une en particulier. Si, ce qui est sûr, c'est qu'on a très envie sur le cinquième numéro parce qu'il va arriver début décembre.
Oui, c'est ça, j'allais te demander décembre.
Et en fait, ce que j'aime bien dans décembre, mais j'ai dû garder un truc d'enfant, c'est pas possible, c'est qu'il y a dans l'air comme un espèce de l'enchantement de l'ordinaire. Je sais pas pourquoi en décembre...
C'est la magie de Noël.
Voilà, on passe novembre où on est très déprimé, puis décembre, il y a un espèce de... Et du coup, pas forcément sur le côté ultra-consommation, mais on aimerait bien saisir ce qui, voilà, ce qu'il y a dans l'air du temps et comment est-ce qu'on amène un peu d'enchantement en fait dans l'ordinaire en fait.
Je crois qu'on a besoin, t'as trouvé les mots, parce qu'on a besoin d'être enchanté, surtout à cette période qui est quand même très compliquée. Bravo à toi Charlotte.
Mais merci.
Et bravo à toute l'équipe de Beau d'ailleurs. Alors j'en connais certaines, donc je salue Caroline Hamel, Julie aussi, qui est vraiment ton bras droit dans l'histoire, Julie Lesterade.
Ouais, elle est là et puis bon, c'est une amie, on a une entente et professionnelle et personnelle, donc c'est ce qui rend l'histoire encore plus belle. Quoi.
Et happy birthday.
Merci.
Merci Charlotte. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.
Searching for the perfect gift idea for that hard-to-buy person on your list? The Allbirds Wool Runner is a natural fit. The Wool Runner is super cozy, super comfy, and super giftable. It's made with ZQ-certified merino wool, a naturally cozy material that offers next-level comfort and a lower environmental impact. The cushioned midsole and versatile design offer all-day comfort in a classic style you can wear every day, even in a winter wonderland. And its fully machine-washable construction makes it easy to keep your shoes looking like new. Allbirds shows off the Wool Runner's carbon footprint right on the shoe so you can see the difference for yourself. On top of that, they actually offset that carbon footprint to zero, making the Wool Runner completely carbon neutral, so you can stay cozy and tread lighter on the planet. This holiday season, give tidings for comfort and coziness with the Allbirds Wool Runner. Discover your perfect pair at Allbirds.com. That's Allbirds.com.